Bienvenue sur Gentologie Radio, un tout nouveau balado par Gentologie, le style de vie pour gentlemen. Au menu, des conversations avec des personnalités pour qui le côté gentleman est une nécessité. Des PDG, des passionnés, des gens destinés à vous impressionner. Je suis votre hôte, Normand Boulanger, président et éditeur de Gentologie. Et bienvenue à ce troisième épisode de notre première saison. Notre invité du jour est M. Nicolas Bérubé, journaliste à la section Affaires du journal La Presse. Auteur du livre « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez », il vient par ailleurs de sortir son second ouvrage « De zéro à millionnaire, investir en bourse sans souffrir », qui vous fera certainement réfléchir sur vos investissements. D'ailleurs, M. Bérubé et son équipe viennent de lancer l'infolettre L'argent et le bonheur sur le quotidien La Presse, alors que les variations de l'inflation nous obligent à changer nos habitudes, il nous semblait la période idéale afin de vous présenter cette entrevue. Mesdames et messieurs, M. Nicolas Bérubé. Bonjour Nicolas, sautons tout de suite dans le vif du sujet. Tu as été journaliste dans la... pour la presse dans l'Ouest américain. Tu as vécu 7 ans en Californie. Si tu nous parlais un peu de comment l'investissement là-bas, c'est différent d'ici. J'imagine qu'avec toutes les startups et tout ce qu'on peut avoir, c'est vraiment un milieu qui est un peu différent de celui dans lequel on vit. Que ce soit à Montréal, au Québec ou même au Canada, il doit y avoir totalement... ça doit être totalement différent, non?
Oui, je pense. Oui, moi, j'ai passé 7 ans en Californie, puis j'ai l'impression, oui, que peut-être qu'on est plus exposé là-bas. Il y a, c'est peut-être plus dans l'air, il y a plus de livres. Ouais. Ici, je trouve qu'on est beaucoup, depuis 10-15 ans, dans l'immobilier, là, parce que c'est un peu normal. Quand un actif a des rendements excitants, ça attire l'attention. C'est vrai pour le Bitcoin, c'est vrai pour l'immobilier résidentiel qui a des hausses absolument incroyables. Donc, je pense que ça attire l'attention, les gens voient ça. Puis je pense qu'on arrive à un moment où les gens ont peut-être aussi le goût de diversifier puis d'avoir une vision plus globale puis que se dire, ben, je m'achète un condo puis ça va être ça ma retraite. Il y a de ça, il y a beaucoup de ça au Québec, mais je pense qu'il y a aussi des gens qui réalisent que ben, c'est bien d'avoir pas toutes ses œufs dans le même panier.
Oui, justement, par rapport un peu à ça, est-ce que l'économie des startups, justement, en Californie peut aider, justement, aux gens à vouloir investir, justement, dans les entreprises qu'ils voient comme à côté de chez eux, puis qu'ils voient...
Oui, moi, ce que j'ai remarqué en Californie, c'est qu'il y a la barrière entre, tu sais, les choses qu'on peut lire sur Internet, les nouveautés, puis le moment où ces nouveautés-là arrivent dans notre vie, il n'y a vraiment pas un gros laps de temps. Tu peux lire sur une entreprise qui fait, je ne sais pas moi, qu'il y a 7 millions. Non, moi, j'étais là il y a 10 ans plutôt, mais je me souviens, je lisais sur les endroits où tu pouvais payer avec ton téléphone. C'était complètement nouveau. Puis, 2 jours après, le café en bas de chez nous, je pouvais le faire. Je pouvais payer avec mon téléphone. C'est très, très rapide. Donc, je pense que c'est un avantage. Puis ça donne un peu aussi l'idée aux gens que oui, c'est possible de bien placer. Puis on a des exemples. Les gens connaissent des cousins ou des beaux-frères ou des voisins qui ont toutes sortes qui travaillent dans les startups ou qui ont fait de l'argent avec ça. Donc, ça fait plus partie du quotidien, oui, c'est vrai.
Est-ce que, justement, par rapport, on parle de gens qui font de l'argent. Tu sais, je lisais dans le livre, dites que les gens qui sont les plus riches, entre guillemets, sont ceux qui font à peu près le moins d'argent. qui sont pas du moins les mieux outillés, peut-être. Ça serait peut-être mieux dit que dans...
Oui, ça m'a fasciné. C'est que quand on pense à des gens qui gagnent très bien leur vie, comme par exemple les médecins spécialistes, comme je mentionne dans le livre, ça, c'est des gens qui peuvent gagner 500 000 $. Donc, c'est vraiment les rares là au Québec qui peuvent vraiment gagner des montants dans ces eaux-là. Puis on prend pour acquis que ces gens-là ont tout compris au niveau des placements, parce que bon, on se dit, moi, si je gagnais ce genre d'argent-là, c'est sûr que je serais au courant de ça. mais quand on gratte, on se rend compte que non, beaucoup de médecins spécialistes, puis j'en parle dans le livre, mais depuis ce temps-là, beaucoup de gens m'ont contacté avec toutes sortes d'anecdotes, puis tu sais, comme je mentionne, le Canadien moyen prend sa retraite à 62 ans en moyenne. Ouais. Les médecins spécialistes, eux, c'est la moyenne est à 72.
Ouais, c'est quand même.
Donc, si ces gens-là, pourquoi les médecins prennent 10 ans de plus que le Canadien moyen à économiser pour sa retraite, mais c'est parce qu'ils ont des trains tellement élevés que ça en prend beaucoup là, de placements pour pouvoir continuer un train de vie comme ça une fois qu'on arrête de travailler. Donc, ils n'en mettent pas assez de côté. Puis ce qu'ils mettent de côté, en fait, je ne veux pas dire qu'ils n'en mettent pas de côté, ils en mettent, là, puis par rapport à la moyenne, ils en mettent plus que la moyenne de côté, mais sauf que c'est quand même pas assez pour leur train de vie. Donc, tu sais, quand tu as une pension alimentaire à payer, un chalet, deux enfants à l'école privé, tout ce que tu veux, ben, les vacances en Europe, donc il reste plus grand chose à la fin pour investir. Donc c'est un peu ça, moi, qui me fascine à travers tout ça. On a l'impression que ces gens-là ont absolument compris, puis comprennent comment investir. Même les gens qui travaillent en finance, on a l'impression, on a cette matière. Moi, je l'avais, cette perception-là. Moi, avant de m'intéresser à tout ça, si je voyais quelqu'un qui travaillait en finance, qui roule en Porsche, je me dis, waouh, regarde le petit Warren Buffett là, qui roule et qui a une façon savante de faire multiplier, un peu de changer l'eau en vin. Là, il a compris, là, cette personne-là, elle a compris comment faire des placements financiers, mais c'est pas long qu'on comprenne. C'est quoi, dans le fond, cette business-là, des placements financiers? C'est une business qui carbure pas à la performance, qui a une business qui carbure aux frais de gestion. Alors, ces gens-là, tout ce qu'ils ont à faire, c'est accumuler le plus grand nombre de clients possible, puis prendre 2 % des actifs de ces clients-là à chaque année qui s'en vont dans leur poche. Donc, c'est pas parce qu'ils ont une formule magique ou des connaissances incroyables, c'est juste parce qu'ils ont beaucoup de clients. Donc, ça, je pense que c'est encore un peu flou dans la tête des gens, puis l'industrie fait rien pour nous. Pour nous, tu sais, je me souviens plus, il y a une compagnie il y a peut-être 2-3 ans. Qu'est-ce qu'ils font, là? Les compagnies ont peut-être 75 fonds mutuels, 75 fonds de placement. Ouais. Ben, c'est sûr que si tu as 75 fonds, ils doivent en avoir 3-4 qui ont eu une bonne année. Ouais. C'est un peu la loi de la moyenne. Ouais. Alors là, eux, quand vient le temps des REER, ben, ils achètent des pubs un peu partout, puis ils disent, regardez notre fonds croissance. Technologie, j'ai dit n'importe quoi. Regardez notre fonds, là, il a connu 22 % l'année passée, alors que le marché il a juste monté de 6. Donc, c'est très, très facile pour eux de pouvoir vendre un peu du rêve comme ça. Ouais. Malheureusement, l'année d'après, c'est pas le même fonds qu'ils vont utiliser dans leur pub parce que probablement que le fonds de l'année d'avant, il s'est planté. Donc, ils utilisent un peu le manque de connaissances des clients pour vendre du rêve. Puis ça, ben, je trouve ça déplorable.
Ouais, puis l'AMF fait rien là-dedans, c'est ce qui est un peu étrange aussi, là, parce que il me semble qu'il devrait comme un peu réguler quelque chose là-dessus pour.
Oui, ben c'est ça. C'est eux, je pense qu'ils ont des guidelines, puis ils sont plus autour de la fraude et tout ça. Il y a beaucoup aussi de fonds communs de placement qui sont fermés, ça, les gens, ils ne savent pas, mais...
Les merges, là?
C'est ça, ils les mergent avec un autre fonds qui a mieux performé, puis la fiche de route du fonds qui a disparu, elle est plus prise en compte, donc ça leur permet de se vanter d'avoir une meilleure fiche de route à long terme. Ouais. Donc, c'est vraiment des pratiques. T'sais, même aussi, juste la question des frais de gestion, l'industrie se bat pour que ça soit le moins clair possible. Je pense qu'ils ont reculé ces dernières années, ils n'ont pas eu le choix. C'est un peu mieux présenté, mais encore, c'est très, très difficile. Je pense que beaucoup de gens comprennent, ont l'impression un peu que c'est gratuit parce qu'ils ne reçoivent jamais de facture à la maison. Mm-hmm. Mais comme j'explique dans mon livre, les frais de 2 % par année sur vos placements, sur un horizon de 25 ans, 30 ans, ça correspond à la moitié des rendements espérés. Okay? Donc, si vous avez obtenu... je suppose, en tout, si vous avez obtenu 600 000 de rendement, ben, eux, ils en ont. Vous en avez 300 000 dans vos poches, puis il y en a 300 000 qui sont partis en frais de gestion et en coût d'opportunité. C'est-à-dire, l'argent qu'ils vous ont pris en frais de gestion n'a pas pu fructifier dans votre compte. Donc, ça vous. Je ne dis pas qu'ils prennent la moitié des frais parce que c'est une nuance. Là. Parce qu'eux, ils ont pris 300 000, puis nous, on garde 300 000. C'est eux, ils ont pris en fond moins que 300 000. sauf que cet argent-là, si ça avait été dans nos mains, ben, aurait donné 300 000. Donc, c'est ça un peu la
menace. Ouais, je regardais justement le mien, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'un peu de prendre vos conseils, d'aller sur créer un compte boursier avec les fonds indiciels, parce que j'ai regardé mes frais de gestion qui étaient à 2,39%. C'est comme, wow, ouais. OK.
Oui, mais oui, quand... ça, c'est bien. Moi, j'encourage les gens à faire ça. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde du jour au lendemain qui va prendre ses finances en main comme tu l'as fait. Ouais. Je pense que des gens aussi, peut-être plus près de l'âge de la retraite ou à la retraite, sont très, très mal à l'aise avec l'idée de, du jour au lendemain là, d'avoir la responsabilité de gérer. C'est pour ça que j'encourage les gens à commencer jeune parce qu'on se familiarise aussi avec ces choses-là. Ouais. Et si quelqu'un commence, les montants en jeu sont moins gros. Ouais. Donc là, la personne un peu comme devenir familière avec le fonctionnement, avec les marchés. Qu'est-ce que c'est quand le marché tombe de 20%, tombe de 30%? Comment je réagis? Puis apprendre avec ça.
Vous écoutez toujours le troisième épisode de Chantologie Radio avec Nicolas Vérubé du journal La Presse. Dans la seconde partie, nous vous parlerons de ce qu'est vraiment la richesse.
La richesse, c'est la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Puis ça, on peut commencer à le travailler dès l'adolescence.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai comme 45 ans. J'étais un peu... le magazine pour lequel je travaille, bien, c'est à moi. Fait que c'est un peu... Je me reconnaissais vraiment dans ce que vous disiez avec les entrepreneurs puis un peu qui n'ont pas nécessairement tout le temps le travailleur autonome, entrepreneur, qui n'auront pas nécessairement de revenus de retraite et de tout ça. Fait que je me reconnaissais quand même beaucoup. Fait que je me suis dit comme, ben tant qu'à donner 2%, je vais essayer d'en ramasser peut-être un peu plus. Puis c'est ça, fait que...
Ben oui.
Fait que c'est vraiment intéressant. Puis ce que je trouve aussi, tu sais, pour vous parler de... Tu sais, je lisais aussi Morgan Housel, un peu que je t'aurais de lire, de Psychology of Money, qu'il fait référence. Puis oui. C'est vraiment drôle parce que l'anecdote de la Porsche est dans le livre.
Oui. Ben lui, en fait, qu'il dit, c'est la Porsche...
Ben, il était là, puis il était valet, je pense.
Puis il a remarqué, lui, que, dans le fond, il remarquait les autos, mais il remarquait pas les gens qui conduisaient. C'était un peu différent, dans le sens que lui, c'était plus au niveau du paraître, puis, tu sais, oui, tu veux une belle auto pour avoir l'air important, mais les gens, ils vont pas focusser sur toi, ils vont focusser sur l'auto.
Mais il disait, il y a une autre anecdote qui disait, justement, par rapport au gars avec la Porsche, il arrivait tout le temps avec sa Porsche, puis là, du jour au lendemain, il est arrivé avec une espèce de Toyota ou je sais pas quoi, peu importe la marque, là. Puis c'était comme, ah, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais, c'est un peu...
Ouais, c'est ça aussi. Ces autos-là sont toutes louées, hein, faut pas oublier. Les autos de luxe, c'est de la location. Donc, quand on voit une belle auto passer devant nous, c'est de la dette qu'on voit passer, là. C'est pas de la richesse. Moi, ce que j'aime bien, ce que Morgan Housel dit que j'aime bien, c'est que la richesse, c'est ce que notre œil voit pas.
Ouais.
La richesse, c'est ce qu'on a renoncé à dépenser et qui est allé à grossir nos actifs financiers. Mais notre œil, ce qu'il voit, c'est de l'argent qui a été dépensé, comme par exemple une belle voiture. Ben, notre œil voit une voiture de riche, entre guillemets, sauf que cette voiture-là, elle est financée. Quand on voit une grosse maison, on pense qu'on voit de la richesse, bon, ce qu'on voit, c'est surtout de la dette. Non. Donc, on peut décliner les exemples comme ça à finir, mais je trouve ça bien intéressant parce que, tu sais, dans le fond, la richesse, c'est quoi? C'est la différence entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est ça. Puis, je pense que les gens n'ont pas compris ça encore. Ils ont toujours l'impression que la richesse, c'est quelque chose comme une espèce de carotte là, vers laquelle on tend puis on essaie d'attraper la carotte devant nous. Puis c'est comme si c'était, disons, une hausse de salaire ou bien un emploi plus payant ou un bonus. On se dit, ah, si seulement là, je pouvais avoir un gros bonus de cette année. Là, je me semble que je serais riche. Là, ou enfin, il me semble que je m'enrichirais. Ça, c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. C'est prouvé que les gens courent après un mirage. C'est la richesse, c'est la différence entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Puis ça, on peut commencer à le travailler dès l'adolescence.
Oui, c'est ça. Même dès les enfants aussi. Je pense que vous parlez aussi dans votre livre, les comptes pour enfants.
Oui.
Moi, quand j'étais plus jeune, dans les années 80, il y avait la caisse scolaire à l'époque à l'école. Je sais pas si y a encore ça pour les enfants, mais c'est quand même un moyen d'épargner. Puis c'est vraiment intéressant à l'époque. Une chose que je remarque aussi, tu sais, je parlais de ça avec ma mère l'autre fois, je me suis dit, comment ça, on se parlait jamais de finances, puis je me demande si ça revient pas un peu à notre, tu sais, la religion catholique qui était très présente dans le temps de nos parents, qui voulaient pas qu'on parle d'argent et tout ça. Est-ce que ça se peut que ça ait eu quelque chose qui a fait que les Québécois soient moins un peu à l'aise de parler d'argent?
Je pense que oui. Je pense que ça a toujours été l'argent. C'est un peu tabou. Ouais. Ça l'est encore. Là.
Ouais.
Et donc, on n'allait pas là. On posait pas ces questions-là. On n'a pas ces connaissances. L'école, ben, va pas nous enseigner ça. L'école va nous enseigner à coudre des boxeurs puis à faire des brownies, malheureusement. Ouais. Mais ils vont pas aller jusqu'à nous expliquer comment investir. Donc ça c'est un peu malheureux.
Ouais.
Il y a aussi la structure, je pense, du marché au Canada. Tu sais, on a 4 ou 5 grandes banques et on voit un peu l'argent comme leur affaire à eux. Tu sais, c'est eux qui ont les connaissances, c'est eux qui sont nos alliés, puis ils ont des millions de dollars en pub pour continuer à nous dire ça.
Ouais. Un oligopole, finalement.
Oui, c'est ça. Puis ils n'ont pas un immense incitatif pour changer les choses. Aux États-Unis, c'est un peu différent. Il y a un marché plus dynamique, il y a moins de gens qui investissent avec leur banque. Donc, les frais de gestion là-bas ont tendance à être plus bas en moyenne que ce que le Canada propose.
Ouais. Les banques peuvent faire faillite aussi, je pense, aux États-Unis, si je me trompe
pas. C'est arrivé dans la crise de 2008. Ouais. Mais donc, c'est ça. Donc, on a l'impression, tu sais, il n'y a pas qui nous parle d'investissement. Si nos parents ne nous en parlent pas, l'école ne nous en parle pas, nos amis, rarement. Puis quand le sujet est abordé, c'est souvent pour parler des bons coups. Là. Ouais. Ah, j'ai acheté telle petite compagnie, puis tu ne peux pas faire ça, puis blablabla. Les 14 mauvais coups en arrière, eux, ils ne sont pas discutés. Mais bref, très peu de personnes parlent de ça, à part les grandes banques qui achètent de la pub. Donc, c'est pas un beau cocktail là, pour apprendre à investir puis montrer à nos enfants comment le faire.
T'sais, moi, je me rappelle à l'époque, étant plus jeune, il y avait des cours d'économie à l'école. Je ne sais pas s'il y en a encore, au secondaire, du moins, il y en avait des cours d'économie, mais un cours d'économie, genre en secondaire 4 ou 5, là, puis c'est à peu près ça. Puis,
Oui, tu apprenais certaines notions comme l'inflation. Mais moi, je trouve ça plate qu'il n'y ait pas mieux enseigner, tu sais, comment investir, parce que c'est tellement la base. On a un peu, c'est ça, au Québec aussi, on a l'impression que le gouvernement va s'occuper de nous quand on va être vieux, mais c'est un peu une fausse notion. En fait, le gouvernement a besoin de s'occuper de nous, c'est parce qu'on n'aura pas des vieux jours fait dorés, là.
Donc, on l'a vu durant la pandémie.
On ne sera pas dans la rue, là, mais c'est pas très joyeux ce qui nous attend si on ne s'occupe pas de nos finances, parce que les rentes, comme je dis dans le livre, les rentes du gouvernement ont été conçues pour s'ajouter à un revenu de retraite. Ouais. C'est pas un revenu de retraite. Donc, ça, il faut le comprendre. Puis aussi, les gens disent, ah, j'achète une maison. OK, mais moi, quand je regarde autour de moi, il y a très, très peu de gens qui sont prêts à downsizer une maison quand ils deviennent un peu plus vieux, parce qu'ils sont habitués, puis ils aiment leur coin. Donc, tu sais, l'idée, là, on va vendre la maison, on va s'en aller dans un condo pour dégager des sous. Il y en a sûrement qui le font, mais c'est en tout cas, peut-être très vieux, ils le font, mais donc, quand tu prends ta retraite à 65 ans, tu ne seras peut-être pas vieux au point d'aller dans une maison de retraite. Donc, tu as peut-être un 20 ans facile que tu as à financer.
Puis, on l'a vu que le gouvernement ne prenait pas nécessairement soin de nous durant la pandémie, du moins par rapport aux personnes âgées, tu sais. C'est ce qui est plate un peu à dire avec ce qui est arrivé, mais quand même, on s'entend qu'il n'y avait pas les meilleures conditions. Puis, ironiquement, on a un premier ministre qui est millionnaire à peu près, je ne sais pas combien de fois, là, mais...
Exact.
Puis
aussi, ce que je dis souvent, c'est que dire aux jeunes, économiser pour leur retraite, c'est plat. C'est quand tu as 20 ans, tu ne peux pas t'imaginer. Prendre ta retraite, c'est comme un concept bien bizarre. Mais moi, ce que j'aime dire, c'est que investir, ça ne va pas juste être payant pour ta retraite, ça va être payant tout au long de ta vie. Parce que durant ta vie, tu vas avoir des actifs financiers. Puis si jamais tu as une perte d'emploi, si jamais tu as un down payment, une piste de fonds à faire pour une maison, ce genre de choses-là, tu vas avoir la possibilité de le faire parce que tu auras investi. Donc, si tu arrives aussi de bad luck, tu as un accident avec ton auto ou quoi que ce soit, tu as besoin d'une fuite dans ton sous-sol, tu as besoin de 20 000 piastres tout de suite, et tu vas l'avoir là, parce que tu as économisé. C'est ça qui est intéressant, ça te sert. Tu sais, quelqu'un qui veut prendre une année sabbatique pour voyager avec sa famille, tu l'as parce que tu as économisé pour ça. Donc, tu vas peut-être pas prendre ta retraite à 35 ans, mais tu vas avoir beaucoup plus de marge de manœuvre que la personne qui a tout dépensé et qui vit à crédit ou qui vit sur sa marge de crédit pour aller dans le sud. Choses comme ça,
c'est
ridicule. C'est pas idéal.
Ce que je trouve intéressant, justement, je pense que c'est Hassel aussi qui disait ça, c'est d'économiser pour être capable de vivre durant un an sans salaire.
Ben oui, puis aussi, par exemple, une personne qui contribue à son REER, c'est parfait pour ça, parce que tu prends, pendant un an, tu vas décaisser ton REER, disons, pour un voyage. Donc là, ton taux d'imposition va être très bas parce que tu n'as pas des revenus autres cette année-là. Alors là, tu as vraiment déjoué le système là, si tu réussis à faire ça.
C'est vraiment intéressant. Les gens, justement, sont pas justement comme... ils savent pas ça. C'est super intéressant ce que vous dites, parce que puis c'est un truc que je vois aussi, puis je vous le dites aussi dans votre livre, c'est que je pose la question, pourquoi qu'il n'y en a pas plus que ça des livres justement au Québec avec sur la finance comme ça, puis tu sais, on est obligé d'aller, il y a beaucoup plus de livres là, par rapport aux États-Unis. C'est sûr que la langue et ça se vend un peu partout, mais quand même les règlements financiers sont pas partout pareils.
Ouais, je sais pas d'où ça vient. Il y a Pierre-Yves Maxwell qui a comme un peu cassé le moule là, puis un peu
il est un peu plus plate, par exemple.
Il est un peu quoi?
Il est un peu plus plate dans son on dirait que ces titres de livres du moins sont peut-être un peu moins positifs, du moins vous n'en avez pas de besoin, ou le truc du couple là, récemment aussi qui est comme un peu T'sais, de 0 à 1 milliard, on s'entend que c'est beaucoup plus vendeur.
Félicitations
pour le titre, d'ailleurs. Puis c'est super intéressant. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, puis vous n'êtes pas comptable non plus. Fait que, tu sais, on s'entend que c'est un peu plus intéressant. Puis vous êtes habitué à compter des histoires en tant que journaliste. Fait que c'est peut-être qu'il y a ce côté-là un peu plus dynamique et fun à lire. Oui,
c'est ça. C'était ça mon idée. Tu sais, puis de rendre ça souvent. Les livres sur la finance, comme tu disais, sont souvent très plates. Puis non seulement ça, ils sont plates, mais souvent, ils nous enseignent des mauvaises choses. Comme ils nous disent, par exemple, comment analyser les entreprises dans lesquelles on veut investir, alors qu'on sait depuis longtemps que les gens qui achètent des titres individuels, des actions individuelles de compagnie, ont de moins bons rendements que ceux qui font juste acheter le marché au complet. Je pense que pour beaucoup de monde, là, c'est la première fois qu'ils entendent ça. Donc, acheter, tu sais, un investissement, un FNB passif qui réplique le marché au complet, ça va nous donner meilleur rendement que 9 investisseurs sur 10. Donc, ça inclut les professionnels. Donc, c'est vraiment révolutionnaire de comprendre ça, de savoir que qu'on n'a même pas à réfléchir, on n'a même pas à analyser les compagnies. On peut le faire si on veut. Il y a des gens qui aiment investir activement. Moi, je ne décourage pas ça. Si vous voulez prendre une partie de votre argent et acheter vos actions, suivre ça, ben go. Mais moi, je ne miserais pas ma retraite là-dessus.
Parce que, tu sais, au final, tu sais, même une entreprise comme Tesla qui va super bien en bourse, tout ce que ça peut faire, c'est que ça peut juste descendre, là, au final, là, tu sais.
Mais il y a toujours ça aussi. Des entreprises qui retiennent notre attention, ben, quand on voit leur performance, faut pas oublier que ça, c'est dans le rétroviseur. Et oui, Tesla a connu une performance incroyable depuis 2020, à peu près, là. Ça fait peut-être 2 ans. Avant ça, ça faisait pas grand chose. Mais, tu sais, donc là, on regarde ça, on regarde dans le rétroviseur, est-ce que les performances de Tesla vont continuer? Peut-être que non. C'est un mystère. Personne ne le sait.
Ben non, c'est ça.
Les compagnies mal aimées une année, elles peuvent être les stars de l'année suivante et vice-versa. Donc, très, très difficile de se bâtir un portefeuille de cette façon.
Puis ça, c'est ce que, une chose que j'ai aimé aussi de vous, si vous dites... J'ai suivi beaucoup de vos conseils, honnêtement. Parler des notifications sur le téléphone, d'arrêter ça et tout, c'est un peu stressant. Puis, tu sais, je veux dire, c'est vraiment une bonne chose parce que c'est vrai que ça stresse sur certains trucs. Puis, tu sais, on est tout le temps pas pensé à ça. Puis surtout aussi les articles, même qu'on lit, la bourse explose, la bourse descend. Puis, tu sais, puis vous dites, les gens, ils en savent rien. Tu sais, ils disent ça, on a des pseudo-professionnels, il y en a qui sont des vrais professionnels, mais tu sais, ils prévoient des choses, mais ils savent.
Ben non, ils font juste meubler du temps à la télé, c'est des hypothèses, puis tout ça. Puis, tu sais, donc, on est bien mieux de se mettre des bouchons dans les oreilles, puis de ne pas écouter ça, de juste faire nos placements, puis ne pas se laisser prendre par ce que les experts disent. Puis, il y en a tellement de prédictions, puis autour de moi, là, j'entends encore cette semaine, là, on est dessus pour un crash. On est dû pour rien du tout. Personne ne sait.
Mais oui.
Et il faut vraiment, là, les meilleurs investisseurs, c'est ceux qui, paradoxalement, s'intéressent le moins à leur portefeuille. Moi, je fais absolument aucune transaction dans mon portefeuille depuis plus de 10 ans. Tout ce que je fais, c'est quand j'ai de l'argent, j'en rajoute quand j'ai de l'espace dans mon CELI, dans Montréal, je rajoute de l'argent, mais je fais aucune transaction liée à l'état du marché, du tout, puis j'ai pas l'intention d'en faire.
Vous êtes toujours au troisième épisode de Gentologie Radio avec Nicolas Vérubé, journaliste au journal La Presse. À venir, vos finances et la patience. La règle d'or.
Warren Buffett est devenu milliardaire dans la cinquantaine.
Ouais.
OK, donc, il est passé de 0 à 1 milliard en 50 ans. Dans les années qui ont suivi, il est passé de 1 à 100. Ça, c'est l'intérêt composé.
On parle de gens qui s'occupent à peu près pas de leur finance. On peut parler de Warren Buffett, même si on dit qu'il est l'oracle de l'Omaha, mais tu sais, un moment donné, oui, il y a des gens qui travaillent pour lui, mais tu sais, c'est sur le long terme qu'il regarde ses affaires. C'est pas justement sur le court terme. Tu sais, il analyse des entreprises, oui, mais pas pour faire fructifier son argent du jour au lendemain non plus, tu sais.
Ben non, pis ça, c'est parce qu'il a compris à un très jeune âge, Warren Buffett, que ce qui va l'enrichir, c'est pas une bonne année. Parce que ça, les gens ont la misère à comprendre ça. Ils ont l'impression que s'ils attrapent la petite action, puis la petite action à quadruple, puis là, ils réussissent à vendre au bon moment, là, ils vont s'enrichir. Ben non. La bourse, c'est pas une game d'un an, c'est pas une game de 5 ans, c'est une game de 70 ans. C'est extrêmement long, pas du tout... Si on boursicote puis on se plante à l'année 5 et on revient à notre point de départ, on a perdu 5 ans. Là, donc, dans le fond, l'idée, c'est d'essayer de trouver où le marché s'en va dans une année, où le marché s'en va l'année suivante. T'sais, Warren Buffett, Morgan Housel, on en parle dans son livre. Il y a 91 ans maintenant. Sa valeur nette, c'est autour de. La dernière fois que j'ai regardé, c'était autour de 100 milliards.
Ouais.
110 milliards. Okay? Warren Buffett est devenu milliardaire. Dans la cinquantaine.
Ouais.
OK, donc il est passé de 0 à 1 milliard en 50 ans. Puis dans les années qui ont suivi, il est passé de 1 à 100.
C'est incroyable.
Ça, c'est l'intérêt composé. C'est ça, les intérêts composés. C'est quand on commence à investir, les rendements de nos placements ne sont pas en dollars, ne sont pas remarquables. Ouais. Mais plus notre boule de neige grossit, plus les rendements deviennent, en termes de dollars, deviennent importants. Donc, c'est ça. C'est la fameuse analogie de la boule de neige. Là, quand on commence à faire une boule de neige pour nos enfants, pour faire la bonhomme de neige, on a l'impression que ça va nous prendre la journée. Mais après 10 minutes, notre boule est rendue aussi grosse que nous. Ben, c'est parce que plus la boule grossit, plus elle attire de la neige. Là, donc, c'est ça qui est l'image là, qui est devenue un cliché, mais qui est bonne parce que c'est vraiment ça. Là. C'est Warren Buffett, il est riche parce qu'il est patient. Il n'est pas riche. Oui, il est très bon investisseur, mais sans patience, un investisseur va pas loin.
Il y a une très bonne équipe aussi, j'imagine.
Ben oui, c'est sûr. Puis il y a plein c'est comme aussi se comparer à c'est comme se comparer à Michael Jordan aussi là. Ouais. C'est pas des talents qui sont réplicables là, tous les jours là.
Mais la meilleure
que je m'habille en Michael Jordan que je dois l'être.
Mais le meilleur exemple pour Michael Jordan, je pense, c'est tu sais, il a pas gagné de titre avec Washington. Fait que Manny, ben quand il jouait ailleurs après Chicago, ça a pas été super bien. Fait que tu vois, c'est avec l'équipe aussi, puis c'est il y a pas juste une personne là qui.
C'est
des gens qui réfléchissent. Puis tu sais, il était deux au départ. Là, il y a un autre monsieur chez Buffett aussi qui a une histoire un peu folle là. C'est que dans Sol qui en parle, le monsieur a perdu son œil ou quelque chose de même, là, je m'en souviens plus.
Oui, Charlie Munger.
Ouais, Charlie Munger, qui, tu sais, c'est quand même assez impressionnant, là, tu sais. Je veux dire, il était quand même trois personnes intelligentes au départ, puis qui ont comme tout.
Ils ont monté ça, puis encore aujourd'hui, ils gèrent la compagnie.
Oui, c'est ça.
Qui est une des 10 plus grandes compagnies aux États-Unis. C'est quand même assez unique, là, comme.
Ouais, vraiment. Puis, je vais peut-être un peu finir ça pour vous laisser aller par la suite, mais si vous avez des conseils un peu à donner aux gens pour investir, j'imagine que c'est de partir jeune, mais au-delà de ça, si on est dans la fin trentaine, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ben, pour commencer à investir, il faut d'abord réfléchir à qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on est prêt à faire nos placements nous-mêmes? Si on a un peu de difficulté avec ça, ben, on peut aller vers quelqu'un qui, j'en parle dans mon livre, il y a deux, trois personnes, là, au Québec, il y a, par exemple, Placement IDEMA. Eux, ils ont une plateforme en ligne qui aide les gens à investir. Il y a aussi des entreprises comme Wealthsimple, Invest, qui, eux, rendent, là, l'accès à l'investissement très facile. On peut ouvrir un compte sur notre téléphone en 10 minutes. Et puis, on a un portefeuille diversifié, de FNB en 10 minutes. Donc, ça, c'est des outils qui sont accessibles et qui sont très, très peu chers, en fait.
Ouais.
Donc, ça, c'est... Moi, un des conseils que je dirais aux gens, c'est vraiment d'automatiser leur épargne et leur investissement. Parce que plus on... Tu sais, c'est un peu comme Netflix. Netflix, ouais. Là, on n'y pense pas, on est abonné, l'argent part de notre compte, puis c'est ça. Donc, si ça marche bien pour Netflix, il faudrait que ça marche bien pour nous, pour notre investissement. Donc, moi, je dirais aux gens, si vous avez une paie régulière, là, organisée pour en investir un pourcentage, puis parce que vous allez prendre une décision, puis après ça, tout va se faire sur le pilote automatique. Donc, ça, c'est bien. Si les gens ont des revenus réguliers, sinon, ben, il faut y penser, puis il faut le faire avec le temps. Puis,
au pire, on peut commencer bas avec un 25$ par semaine ou quelque chose
comme ça. Ben oui, c'est ça, tout à fait. C'est pas besoin d'avoir des gros montants. Ce qui est important, c'est la durée, le meilleur moment pour commencer à investir, c'est il y a 20 ans. Puis le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc là, il faut commencer avec ça. Puis je dirais aux gens, arrêtez de penser qu'il faut consacrer à ça des heures par année. C'est pas vrai. Arrêtez de penser qu'il faut tout comprendre de la finance mondiale pour être un investisseur. Pas en tout. Ça me prend moins d'une heure par année, je verrais ça. Moins de temps ça vous prend, mieux c'est. Donc, tu sais, quand je dirais aux gens de commencer, même si déjà dans la cinquantaine, il leur reste peut-être 40 ans à vivre. Là.
Ah, c'est
et puis, si nos investissements ils nous suivent toute notre vie, c'est pas parce qu'on est on a 65 ans que tout d'un coup, on est tout en cash dans notre compte de banque. C'est pas comme ça que ça marche. On est investisseur toute notre vie. Donc, il n'y a pas de mauvais moment pour commencer. Puis, l'important, justement, c'est de commencer, d'ouvrir un compte, de faire les premiers pas, puis de ne pas écouter les experts, de ne pas écouter les nouvelles. Sinon, on stresse bien trop là, avec ce qui se passe ces temps-ci.
Ouais.
moins on s'y intéresse là, du point de vue humain, là, je parle du point de vue financier.
Oui, 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 exactement.
Du point de vue financier, il n'y a rien à aller chercher. Je l'ai dit dans mon livre, si là, suivre les nouvelles, ça rendait riche, là, les journalistes seraient tous millionnaires.
Okay? Ouais.
Ils sont pas millionnaires, les journalistes, je peux vous le dire. Donc, c'est pas...
Ils n'écoutent pas vos conseils.
Non, ils n'écoutent pas, mais peut-être qu'il y en a une couple qui vont le devenir, mais moi, c'est vraiment pas là que se trouve la clé. Là, ouais. Donc, il y a tellement de mythes là, dans ce domaine-là que c'est ça un peu qui m'a donné.
Peut-être juste une dernière question. Tu sais, les gens qui investissent dans le Bitcoin, justement, de ce temps-ci, comment vous trouvez ça par rapport un peu au côté financier, puis d'essayer de vouloir faire de l'argent le plus vite possible?
Ben, c'est sûr que le Bitcoin... c'est sûr que ce qui attire les gens, bon oui, c'est une nouvelle technologie et tout ça, mais faut pas se leurrer. C'est aussi le côté spéculatif et ouais. excitant qui attire beaucoup de gens. C'est vrai pour le Bitcoin, c'était vrai pour un paquet d'autres choses à travers l'histoire. Est-ce que c'est une bulle ou non? Moi, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que c'est très, très volatile.
Ouais.
Ça peut pas faire l'objet de la part importante de nos placements parce que c'est vraiment comme aller au casino là, à ce point-ci. Donc, si les gens veulent placer une partie de leur argent là-dedans pour apprendre comment ça marche et tout ça, mais malheureusement, c'est tellement excitant que je pense que beaucoup se lancent, puis il va peut-être avoir des larmes éventuellement avec ça aussi. Là, c'est sûr. Allez-y, mollo.
Puis d'être prudent, peut-être aussi, je dirais, peut-être avec. J'ai vu à la enquête ou à la facture qu'il y a des gens qui avaient été. Justement, comme fraudé par ça.
Arnaqué,
oui. Il n'y a pas de règlement sur cette plateforme. Hein,
c'est ça, aussitôt qu'il y a des actifs comme ça. C'est ça, aussitôt qu'il y a des actifs comme ça qui quadruplent de prix dans un court laps de temps ou bien plus que quadruple de prix. C'est sûr que là, ça attire toutes sortes de racailles et toutes sortes de hameçonnages et tout. Donc, ça aussi, ça a tenu à garder en tête aussi, parce que les investissements là-bas, c'est beaucoup mieux géré, beaucoup plus professionnel. Là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent tomber dans les pattes. Là, donc, il faut garder ça en tête aussi.
Peut-être regarder avec Wealthsimple justement pour cette plateforme-là aussi. Il faut le Bitcoin. Oui. Enfin, j'ai vu ça l'autre fois en regardant l'Hockey qui commandite Wealthsimple Crypto. Là, fait que...
Oui, j'ai vu ça. Ils se sont mis aussi. Là, pour moi, c'est quand même... C'est promis à un avenir incroyable. C'est peut-être que non. Moi, personnellement, j'en ai pas de Bitcoin. Mmh. C'est pas ma philosophie.
Non.
Mais je comprends qu'il y en a qui en aient et que ça les intéresse, tant mieux. Peut-être que je suis trop vieux, je sais pas. Je trouve l'investissement à la bourse, je comprends et je possède des entreprises.
Mmh.
Les entreprises vendent des choses à des gens qui payent avec l'argent. Mmh. Donc, il y a comme un mécanisme qu'on peut quand même comprendre. Le Bitcoin, c'est un peu mystérieux, là, ce qui fait que ça monte et ça baisse. Donc,
où va l'argent aussi? Où va l'argent surtout?
Où va l'argent? C'est ça. Donc, c'est un peu mystérieux.
Ouais.
Je sais qu'il y en a qui ont super bien réussi avec ça, mais encore là, on tombe dans le rétroviseur. Là. Le Bitcoin, il a très bien marché dans le rétroviseur, dans le pare-brise. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non.
Exactement. Bon, merci beaucoup, Nicolas. Puis, c'était super intéressant. Puis, encore félicitations pour le livre. Vraiment, c'est une super belle ressource. Puis, je vous souhaite une bonne réimpression.
Oui, c'est ça. Exact. Ben oui, j'ai hâte de m'en voir. Une fois, je suis allé au Renaud-Brie, il n'y avait pas. Mon garçon n'était pas fier. Je disais que c'est une bonne chose, mais quand même.
C'est sur ces sages paroles que se termine notre entrevue avec M. Nicolas Berruet, journaliste à la presse et auteur du livre « De zéro à millionnaire ». Vous pourrez certainement rencontrer M. Berbé au Salon du livre de Montréal qui se déroulera du 23 au 27 novembre. D'ici là, nous vous reviendrons très bientôt avec M. Louis-Jérôme Doise, ambassadeur des marques de Dalmore et Jura. Deux whisky exceptionnels. Qui seront à la grande dégustation du 20 au 22 octobre prochain. Sur ce, merci d'être à l'écoute de Gentologie Radio et à très bientôt.